pour l'heure, il est 22h10 sur France Culture. À Vatrelot ce soir pour nous présenter leur magazine multipiste, Laurence Millet et Arnaud Laporte. Bonsoir.
Multipiste, le rendez-vous de la création contemporaine en France. Dans un petit village de l'arrière-pays Hérolté se cachent deux créateurs de machines extraordinaires. Œuvres d'art, sculptures, instruments, installations, ils jouent sur la frontière de l'art et du ludique. Plasticiens, compositeurs, paysagistes, nos invités ne cessent d'inventer de nouvelles façons d'occuper poétiquement l'espace. Nous recevons ce soir Solveig Dehory et Jean-Robert Sedano. Solveig Dehory et Jean-Robert Sedano, vous êtes tous les deux des activistes de l'installation ludique, une définition qui est un raccourci mais qui vous semble refléter déjà un esprit, un état d'esprit.
Oui, c'est pas mal, c'est une définition qui me plaît plutôt. Je crois que surtout on aime les sons déjà, on aime jouer nous-mêmes avec les sons et on a un plaisir à les travailler pour les offrir aux gens et leur donner la possibilité de les découvrir peut-être sous d'autres formes que la forme polyphonique classique ou le concert, ou de façon à en jouer, à jouer avec.
On va découvrir de quelle façon vous faites jouer.
Pas forcément assis, en étant immobile. On peut écouter, jouer avec les sons, mille façons. On a exploré quelques petites facettes avec diverses installations.
Alors nous sommes ici au bout du paradis, au bout de la rue du paradis à Saint-Céryès, c'est entre Nîmes et Montpellier, hein, pour aller vite, et dans une maison qui recèle quelques trésors, et surtout des machines, mais ça que nous sommes seuls à voir aujourd'hui, parce que les machines sont toujours cachées. Chez vous, qu'est-ce qui vous a amené au départ, l'un et l'autre, à travailler l'installation, le son, l'interaction avec le public?
D'abord, un plaisir pour le spectacle. À nos débuts, à tous les deux, on a monté des spectacles de théâtre, de marionnettes. Donc on tirait les ficelles pour créer des ambiances, environnements. On utilisait la musique électroacoustique dans les spectacles de théâtre d'animation. Et on s'est dit, pourquoi pas utiliser le versant sonore pour créer une nouvelle forme de spectacles qui duraient plus longtemps qu'un spectacle d'une heure ou de deux heures, qui duraient toute la journée, pourquoi pas tout le temps, pour que le public puisse l'utiliser vraiment en permanence, à son gré. Voilà, ça a été un des points de départ de notre action pour les installations sonores.
Spectacle, installation, art, vous êtes à une frontière assez. Oui. Sur une ligne un peu particulière. Hein.
Oui, et puis je pense que. Le son, c'est quand même ce qui nous attire le plus. Mais on voulait. Je pourrais presque dire on voudrait modeler le son, c'est-à-dire lui donner différents aspects, lui donner de la forme, lui donner du volume, lui donner. L'animer, le transformer, vraiment presque le triturer. De manière à ce que on puisse quasiment le toucher. D'ailleurs, dans certaines installations, on peut dire presque au sens propre du terme qu'on va le toucher. Et donc, en le touchant, on va le déclencher. Et c'est tout cet aspect de presque comme des boîtes de jeu qu'on déplie. En fait, je pourrais dire qu'on est comme des inventeurs de jeux sonores. Et puis, on le donne aux gens et puis à eux de décider ce qu'ils vont en faire.
Alors nous allons être cobayes à notre tour et oui. Nous allons peut-être tester avec vous certaines installations.
Oui.
Un premier exemple d'un des objets, machines, jeux que vous avez imaginé. On est là autour du prototype, de ce qui vous a servi à imaginer un cube immense.
Oui.
Quelle hauteur ?
C'est un cube de 3 mètres de côté. Donc, il fait 3 mètres de haut, forcément. Et il est couvert de signes qui font penser à des écritures. Tous ces signes sont en aluminium. Et ce sont des capteurs qui vont mesurer la résistance électrique de la peau. En fonction de cette mesure instantanée, à la mesure du contact des mains du public sur le cube, on associe des sons. La machinerie est complètement invisible, contrairement à ce que vous voyez ici dans le studio, où on voit tous les appareils qui permettent de créer ces sons. Alors là, je touche une des faces du cube, et j'obtiens une variété de sons, percussions, du sitar, d'autres sortes de sons. Encore d'autres. Là, je les ai tous sous la main. Des voix qui vont se mélanger au gré du contact du public sur les faces du cube.
Et là, Solveig Dehory, l'importance des sons, ce sont des sons du monde entier, c'est tout l'univers dans ce cube.
Oui, on a voulu retracer une odyssée sonore, c'est-à-dire qu'en parcourant le petit espace qu'on fait du cube, puisque bien, il fait 3 mètres de côté, mais on va autour et on le parcourt assez rapidement. Et donc, sur ces petites surfaces, on va avoir le monde entier en condensé sonore. Et c'est assez touchant, je trouve, parce qu'on a des voix, par exemple, de femmes inuites, on a des sitars indiens, on a des sons d'Amazonie, on a fait de grandes recherches.
Vous les reconnaissez tous, vous ? Essayez, Jean-Robert, d'appuyer sur une des plaques.
Eh ben ça, c'est des femmes inuites.
Justement.
Oui, je l'aime beaucoup ce son-là, parce que je trouve qu'il est... c'est des sons très naturels qu'on a retrouvés en faisant beaucoup de recherches dans des sonothèques. Et je crois que là, on a vraiment une idée de tous les sons qui sont représentés... dans la terre, sur la terre, mais des sons, ce ne sont pas des sons naturels, ce sont des sons humains, ce sont des sons d'instruments, ce sont des sons créés, fabriqués.
Et là, quand ce cube est installé dans une ville, dans un lieu public, les gens passent, on a pu voir une vidéo, et on a une espèce de polyphonie mondiale, puisque chacun s'accroche à un petit bout, appuie ses mains, et tous ces contacts, toute cette interactivité, le mot là n'est pas galvaudé avec le public, crée une espèce de chant, le chant des peuples.
Oui, d'ailleurs, on a eu des réactions d'un certain public qui étaient étonnantes parce que, par exemple, certaines personnes d'origine africaine, par exemple, qui retrouvaient certains rythmes africains, se mettaient naturellement à danser dessus ou à entonner le même rythme avec leur voix. Donc, ça, c'est quelque chose qui touche profondément les gens, je pense, puisque chacun va retrouver un peu de son origine sonore avec le cube.
Solveig Dehory, vous reconnaissez votre musique ?
Oui, tout à fait. Ça s'appelle Elsinore et c'est une composition que j'ai faite pour le dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 16 sources sonores, c'est-à-dire 16 petites partitions qui sont polyphoniques et qui ont été composées de façon à ce que le public puisse les déclencher en se déplaçant dans un espace.
Donc il y a un dispositif qui là encore n'est pas visible, mais on repère la présence humaine. Là encore, il s'agit de passer voilà, devant un capteur et de, selon où l'on est, combien de personnes sont dans le champ, les différentes composantes de cette mélodie que vous avez imaginée, écrite, s'entremêlent.
Voilà, alors par exemple, s'il y a un solitaire qui se promène sur cet espace, il déclenchera la partition par exemple de la flûte ou une mélodie de violon. Et puis si quelqu'un arrive avec lui et si quelques comparses s'ajoutent à eux, tout d'un coup, ils auront le plaisir d'avoir à la fois le violon, la flûte. Ils vont créer petit à petit l'ensemble de la polyphonie. Ils vont aussi pouvoir la décomposer, donc faire tout un jeu mélodique avec les partitions que je leur aurai préparées.
Donc là, Jean-Robert Sedano, il s'agit d'une composition toujours renouvelée. Il ne s'agit jamais de la même, dans un grand espace. Là, c'est pour une installation plutôt de plein air.
Oui, cette musique, Elsinore, a été composée par Solveig pour un château Renaissance. Et cette installation a eu lieu dans l'enceinte d'un château, dans la cour, avec une série de dalles en pierre. Et chacune des dalles produisait les sons qu'on est en train d'entendre. Voilà. Et en extérieur, donc, et toute l'année. Et le système qui permet de capter la présence des gens, on l'a placé dans le donjon, puisqu'il y avait un grand donjon au centre de la cour, et on a placé donc cette caméra qui voit le public. Voilà.
Jean-Robert Sedano, Solveig de Horry, il y a aussi un autre type d'installation que vous avez pratiqué beaucoup il y a plusieurs années, mais que vous montrez encore des sculptures mouvantes, des mobiles de très grande taille. On est là devant une vidéo montrant une série qui s'appelle
Arco Iris. C'est une série de triangles cristallins et incolores qui tournent, montés sur des trépieds à peu près à un mètre de haut, qui tournent lentement, un mouvement lent et multiple avec une quarantaine de triangles qui tournent lentement. Et on donne au public à l'entrée de la salle des lunettes spéciales qui vont modifier la vision et qui vont rendre tous ces triangles de multiples couleurs, un peu comme des fragments d'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on a appelé l'installation Arco Iris. Et baigné dans un paysage sonore qui a été composé par Solveig de Horry. Assez lent, un peu au rythme de la rotation de ces triangles. Ça produit un effet assez étonnant, un effet lumineux, parce que toutes les couleurs viennent de la lumière, c'est pas de la couleur peinte, hein. C'est la diffraction de la lumière dans ces triangles qui produit toutes les couleurs.
Effet apaisant aussi, effet relaxant, effet une musique, on pourrait dire rapidement New Age, mais est-ce qu'il y a de ça, Solveig de Horry?
Disons que j'ai fait la musique en regardant les triangles, en me mettant à la place d'un spectateur. Je me suis dit que pour pouvoir contempler en paix ces couleurs et cette géométrie mouvante, il fallait des sons qui l'accompagnent tout simplement. Et je crois que ça va assez bien ensemble et ça permet aux gens de contempler. Voilà, ils sont dans un spectacle contemplatif. Pour une fois, ils ne sont pas acteurs interactifs, il regarde ce qu'il se passe, et voilà.
Il y a eu d'autres sculptures, je le disais, d'autres mobiles de très grandes dimensions, avec notamment des cercles. Mais à chaque fois, on a l'impression que vous enchantez le monde, tous les deux.
Ah, ça, je ne sais pas. On aimerait faire ci ou ça, on discute tous les deux, et puis il y a une idée bonne ou pas bonne qui surgit. Hein, on essaye de se mettre d'accord, et si on trouve qu'elle est bonne, eh bien, on la réalise.
On le fait d'abord... pour nous, et après on se dit, on va le montrer aux gens, on va voir si ça leur plaît autant que nous, on a eu du plaisir à le faire, et c'est ça l'enjeu en fait, c'est d'abord de travailler en se faisant plaisir, et puis ensuite de montrer aux gens ce qu'on a fait, en espérant qu'eux prendront aussi une part de plaisir.
Solveig Dehory et Jean-Robert Sedano, est-ce qu'il y a un projet, un rêve, pour l'instant irréalisable, vous tient à cœur tous les deux? Vous regardez d'une telle façon que je crois bien que oui.
Oh, je ne sais pas, parce que là, c'est une question très difficile. Un projet ou un rêve, oui, il y en a toujours plein, mais on attend, on est vraiment pragmatique comme personne. Alors, même si il y a une part d'enchantement dans ce qu'on fait, ça fonctionne avec des choses tout à fait réelles, matérielles. Donc, les préparatifs, je préfère pas et je n'ose pas parler de projets avant qu'ils aient un peu pris corps. Voilà.
Mais on peut dire que oui, il y en a. Il y en a en cours qui sont en voie de gestation, si on peut dire. Voilà. Il va y avoir d'autres projets, d'autres formes d'installations qui, j'espère, si on arrive à tout résoudre, verront le jour d'ici un an.
Ça peut être long, une gestation?
Oui, ça peut être très long. Quelquefois même, figurez-vous, on en abandonne parce qu'on n'a pas trouvé de solution à des rêves fous et dont techniquement, on n'a pas su résoudre les plus gros problèmes. Donc, soit on les abandonne et on en crée d'autres, soit on essaye de les transformer jusqu'à les rendre réalisables.
Et certains rêves fous peuvent s'avérer aussi de moins bonnes idées dans la pratique que dans votre imagination. Est-ce que vous avez là des enfants qui jouent dans le jardin? Est-ce qu'il y a des testeurs comme ça? Est-ce qu'il y a des amis, des proches qui essayent?
Oui, en général, quand on a fini une installation, outre les enfants qui sont les premiers essayeurs, on réunit souvent, on fait ça puisqu'on a un jardin, on réunit souvent les voisins, les amis, dans une après-midi festive, et ils sont nos premiers cobayes. Voilà.
Oui, c'est vrai. Et c'est arrivé... Ici, on est dans un tout petit village qu'on installe sur la place publique, en première, nos installations, avant de les amener dans les grandes capitales.
Avec des surprises, parfois?
Toujours bonnes, hein, les surprises. C'est toujours agréable de voir les gens qu'on connaît essayer ses propres créations. Hein.
Diverses installations de Solveig Dehory et Jean-Robert Sedano sont actuellement ou prochainement visibles. Hop Music est présentée au festival Enfance du Monde à Basse-Terre, en Guadeloupe, à partir de demain et jusqu'au 20 mai. Tubulophone sera installé demain également à la médiathèque de Waterloo, jusqu'au 20 mai toujours. Le Cube, Odyssée sonore, sera au Festival des Arts Forains à Namur, en Belgique, du 22 au 29 mai. La Mer, fresque musicale, sera à Saint-Vallier les 27 et 28 mai. Enfin, Hop Music sera à Vevey en Suisse du 29 mai au 17 juin. Pour retrouver toutes ces informations, vous pouvez nous écrire à Multipiste à la maison de Radio France à Paris ou par mail. Et attention, je vous signale que nous avons une nouvelle adresse électronique. Vous pouvez désormais nous écrire à Multipiste en un seul mot et avec un S à la fin, @radiofrance.com.
Demain, à 22h10, nous recevrons Dominique Zlatoff de l'association Dire et Faire contre le racisme et le cinéaste François Duperron pour une série de courts-métrages contre le racisme multipiste. Marie-Vanna Bolivier, Pascal Dupont, Laurence Millet et Arnaud Laporte. Bonsoir.